Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, bienvenue dans l'univers du cinéma d'exploitation des années 60 et 80, après avoir exploré quelques cinéastes majeurs du cinéma de série B américaine. Si Mario Bava m'était compté, Le Corps et le Fouet serait sans doute le film qui me hanterait le plus dans mon sommeil. Il est celui avec Lisa et le Diable qui s'éloigne le plus de tout réalisme, qui franchit une barrière vers un ailleurs que ne réuniraient pas les surréalistes. La notion d'espace-temps n'a jamais été aussi malmenée. Et l'on comprend l'influence de Bava sur des auteurs aussi variés que Lynch, Kurosawa, Joe Dante ou encore Martin Scorsese. Pourtant, en apparence, le récit est clair, ancré et pas seulement un prétexte à déployer une technique aussi admirable soit-elle. Non, mais la technique, que dis-je, la mise en scène transcende le matériau de base pour mieux nous embarquer dans une dimension irréelle et poétique. Le Corps et le Fouet débutent de façon magistrale, pas seulement grâce à ces splendides images nocturnes filmant le personnage maléfique de Kurt Manleaf à la manière d'une ombre chinoise sur son cheval. Le souffle du vent, puis les vagues de la mer se mêlent aux accords de piano obsédants, ritournelles macabres et romantiques qui ne cessera de revenir de manière récurrente tout au long du métrage. Tout comme le vent, la mer et surtout le bruit claquant du fouet. Mario Bava travaille un environnement sonore à la manière d'un chef d'orchestre, ne laissant rien au hasard. Cette matière sonore, omniprésente, à la fois angoissante et envoûtante, sert admirablement les qualités picturales de cette œuvre, d'une beauté secrète et surtout d'une subversion inédite pour l'époque. Le sujet avait effectivement en lui toutes les raisons de subir des interdictions et des coupes diverses. Le sadique baron Kurt Manleaf revient dans la demeure familiale à la demande de son frère cadet, Christian, après un long exil où il aurait poussé au suicide sa sœur Tania. Christian possède le château et les terres et a épousé Nevenka, qui fut jadis la maîtresse de Kurt. Après la mort de celui-ci, Nevenka affirme qu'il revient chaque nuit la harceler et la violenter avec son fouet. Cette incarnation de la beauté est en effet une adepte des plaisirs sadomasochistes et éprouve une jouissance particulière à se faire flageller. Imaginez l'affolement de la censure au début des années 60. Surtout que la première séquence SM réalisée en extérieur près de la mer, si elle ne comporte pas de sexe visible dans le sens où l'on ne voit pas un bout de sein dépassé, n'en demeure pas moins explicite, sauvage, d'une sensualité folle, excitant les sens et parvenant à jeter un regard déviant, faisant fi de toute la sacro-sainte morale judéo-chrétienne.
Je ne vois plus rester la même. Tu as toujours aimé la violence.
Les éléments naturels se déchaînent, la position lascive de Nevenka sur le rocher, son regard pétri de désir, la perversité à peine voilée du dominateur Manleaf instaure un climat transgressif et hypnotique, élevant ce film gothique au-dessus des productions similaires réalisées en Italie à la même période. Toutes les conjectures diégétiques invitant le spectateur à dénouer les fils d'une intrigue diabolique fondée sur une machination sont écartées par un cinéaste plus libre que jamais, ne se reposant pas sur les codes usuels du cinéma d'épouvante gothique en vogue, misant soit sur une rationalisation des éléments narratifs, soit sur un fantastique pleinement assumé. Le Corps et le Fouet se frayent un chemin beaucoup plus sinueux. L'interprétation purement surnaturelle n'est pas à écarter, mais une autre approche, plus fascinante et perverse, est à prendre en considération pour apprécier pleinement ce conte noir et charnel. Nevenka, obsédée par la présence sexuelle de Manleaf, ne sombre-t-elle pas dans une folie irréversible au point de s'auto-flageller, de rejoindre son amant imaginaire dans sa tombe dans un désir quasi nécrophile ? L'enveloppe fantastique n'est qu'un leurre, le substitut idéal pour raconter une histoire passionnelle qui dépasse tout entendement, qui transcende les lois du genre. Le Corps et le Fouet n'est rien d'autre au fond qu'un film d'amour fou, absolu et intemporel. qui bafoue la morale dans un geste de pur cinéma où l'esthétique gothique ne paraît jamais gratuite mais crée des émotions incroyables. Souvent perçu comme un cinéaste froid et misanthrope, ce qui est sûr sur certaines de ses œuvres, Bava s'abandonne à ses penchants érotomanes et romantiques dans Le corps et le fouet grâce à un travail plastique étourdissant. Les zooms rares mais pertinents agissent comme des inserts purement sexuels, les objets sont de pures ornementations fétichistes, le décor de la demeure labyrinthique a rarement été aussi bien mis en valeur grâce à une photo magnifique laissant exploser une colorimétrie savamment dosée. L'habileté des mouvements de caméra et les cadrages insolites laissant exploser plusieurs interprétations dans un même plan, élève cette symphonie morbide et sensuelle au rang de pur chef-d'œuvre du bis. Dahlia Lavie, dans un rôle pourtant taillé sur mesure pour Barbara Steele, est belle à se damner, tandis que Christopher Lee a rarement été aussi inquiétant et attirant à la fois.
Gilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère et ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.